Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'entomologiste Fabre a beaucoup étudié les guêpes, les insectes, les abeilles, que sais-je. Ces histoires sont toutes merveilleuses, et je vous encourage à lire ces souvenirs entomologiques. Il raconte notamment l'histoire du sphex qui veille à nourrir les larves qui sortiront des œufs que cette petite guêpe ou quasi-guêpe a pondus. Voilà, mais pour nourrir une larve, il faut de la nourriture en bon état. Donc le sphex capture des proies, mais ne les tue pas et les endort. Pour cela, il pique à un endroit bien précis de la proie, ce qui fait que la proie est anesthésiée. Et puis, il met la proie au fond du nid, il pond son œuf et il referme l'opercule. Lorsque Fabre étudie le nid, il ôte le couvercle, il voit la petite larve à l'intérieur et se dit, mais comment se fait-il que cette larve soit sur la proie qui lui sert de garde-manger, qui est encore vivante? Il y a quelque chose qui cloche. Il réfléchit et il découvre que en ouvrant le couvercle, il détruit un petit ressort élastique qui sert d'ascenseur à la larve pour descendre manger la proie et remonter hors de son atteinte lorsqu'elle a fini son repas. Il est évidemment dans l'admiration de cet instinct qui à la fois sait choisir les proies, parce que on ne choisit pas n'importe quoi, qui sait endormir la proie et piquer pile à l'endroit des centres nerveux qui vont anesthésier la proie sans la tuer, qui sait faire ce petit ressort, etc., etc. Alors, je vous passe sur les autres guêpes qui sont tout aussi passionnantes les unes que les autres. Il y a celle qui fait son nid dans le sable, qui referme la porte lorsqu'elle s'en va, et lorsqu'elle revient, elle peut partir à des kilomètres. Lorsqu'elle revient, elle retrouve son nid dans le sable. Vous imaginez un nid de guêpe, une seule guêpe, hein, un petit trou gros comme le petit doigt, qui a été fermé et qu'elle rouvre sans avoir cherché. Fabre a essayé de trouver des signes pour qui permettraient à la guêpe de se repérer. Il n'a rien trouvé. Il n'a jamais réussi à retrouver le nid sans que la guêpe le guide. Les œuvres de Fabre font un ou deux volumes importants dans la collection bouquins. Je vous les recommande. Je ne vais pas tout vous raconter, évidemment. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un ordre, un rapport. Ce n'est pas purement matériel. Il y a un rapport entre l'action de la guêpe et une finalité, un but qu'elle poursuit. Un rapport qui nécessairement a été pensé. Or, comme ce n'est pas la guêpe qu'il l'a pensé, elle n'a fait que recevoir dans son instinct. Évidemment, il y a quelqu'un qui l'a pensé pour elle. Ce quelqu'un, ce n'est ni vous ni moi, c'est le Créateur. On constate la même chose quasi universellement. Chez l'homme, on voit que le petit bébé, dès qu'il s'éveille un tout petit peu à la conscience, a le sens du bien et du mal. Là encore, il y a un rapport entre l'activité et une certaine finalité, puisque le bien est une finalité, Le mal, c'est se détourner de cette fin. Il y a un rapport. Ce rapport n'a pas été mis seulement par les parents, parce que quand le petit bébé s'éveille, les parents n'ont pas encore donné le sens moral. Et puis même s'il avait été mis par les parents, qui aurait mis chez les parents le sens moral qu'ils transmettent à leur enfant? Je ne dis pas qui les aurait formés à ce sens moral, mais qui aurait mis en eux ce sens moral qui est instinctif, qu'on trouve chez tous les hommes, même ceux qui n'ont pas encore été éduqués. Des philosophes anciens faisaient remarquer que non seulement le Créateur a mis un ordre, mais qu'en plus il a mis un ordre pour le meilleur. C'est-à-dire que cet ordre va vers quelque chose de bon et même d'excellent. L'histoire du sphinx en est la preuve. Mais l'enfant qui s'éveille à la conscience morale le montre aussi. Il a le sens du bien et du mal. Tout enfant, instinctivement, sait que le bien est bien et que le mal est mal. Et comme il y a nécessairement non seulement un ordre intérieur à chaque être, mais également un ordre entre les êtres, on remonte ainsi à Dieu qui est la source de tout ordre. Ce qu'on démontre par là, c'est qu'il y a une fin, un but, et que ce but est connu par Dieu, il est donné par Dieu, et finalement, Dieu est le bien suprême qui est le but de toute chose. Nous avons vu dans la première voie, la première preuve qui était par le mouvement, qu'il y a des agents qui font quelque chose et qui transforment quelque chose et que ces agents dépendent de Dieu. Nous avons vu dans la quatrième voie, celle que j'aime tant et dont je vous ai parlé dans les derniers sermons, qu'il y a des perfections dans les choses qui sont reçues de Dieu, qui sont une participation aux perfections divines. Et nous voyons maintenant qu'il y a un but dans les choses, un ordre, et que cet ordre trouve sa racine en Dieu, parce que Dieu est la source de tout ordre, et qui dit ordre dit un but, une fin, un bien. Et Dieu est le bien suprême de qui dépend tout rapport au bien dans la création. Je ne parle pas seulement du bien moral, bien sûr, essentiellement de lui, mais également de tout bien dans toute activité. L'ordre du monde est un peu plus difficile à percevoir que l'ordre interne de chaque être. Parce que il nous est facile, nous, de dominer une abeille, tandis que nous ne dominons pas le monde. Et donc, il nous est plus difficile de voir immédiatement cet ordre du monde que Dieu y a mis. Pourquoi les antilopes se font-elles manger par les lions? Pourquoi y a-t-il des lions? Pourquoi, etc. Mais la raison nous le montre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons vu que Dieu a mis de l'ordre, un certain ordre, à certains endroits que nous avons pu constater. Cela nous montre une direction, hein, comme une flèche. Cela nous montre une direction, nous remontons à Dieu. Et avec notre intelligence, nous sommes capables de comprendre que si Dieu a mis de l'ordre, quelque part, ce n'est pas pour mettre du désordre ailleurs, parce que ça serait contradictoire avec la notion de Dieu, qui est une fin, qui est un but, qui est un bien. Et le bien est bien, il ne peut pas être mal ou rien dans certains cas, et puis bien dans d'autres cas, ce n'est pas possible. La fin de toute chose, ça ne peut être que la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu est rendue à Dieu essentiellement par l'homme, et donc la fin de toute chose, c'est cet émerveillement dans lequel se trouve l'homme d'être dans un monde organisé qui lui permet de saisir à l'évidence que Dieu est la source de cet ordre et par là il rend gloire à Dieu. Plus tard, évidemment, nous verrons que par le péché originel, l'homme a mis le désordre. Et puis nous verrons que Dieu n'a pas voulu laisser le désordre, il a voulu remettre de l'ordre. Et comme le dit l'offertoire de la messe, Dieu qui avait instauré la nature humaine d'une façon si admirable et l'avait restaurée d'une façon plus admirable encore. Donnez-nous par le mystère de cette eau, de ce vin, de participer à la divinité de celui qui a partagé notre humanité. Jésus-Christ est envoyé par le Père pour mettre un ordre encore plus beau que l'ordre premier. Et puis nous comprenons bien que cet ordre ici-bas a quelque chose d'imparfait puisqu'il est perpétuellement renouvelé et qu'il faut que nous cherchions l'ordre parfait qui ne se trouve qu'en Dieu. Et c'est ainsi que nous désirons le ciel où régnera l'ordre parfait. Cette preuve est très importante parce qu'elle est le fondement de tout l'ordre moral dans le monde. Elle montre qu'il y a d'abord un ordre moral, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Elle montre que cet ordre est universel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des individualistes, mais nous travaillons ensemble, chacun à notre place, à la gloire de Dieu. Elle montre que cet ordre est fait pour le bien, qu'il ne peut pas être fait pour le mal, parce que le mal, justement, c'est le désordre. Et elle montre qu'il y a une identité entre but et bien, ou entre fin et bien. C'est-à-dire que le but poursuivi, la fin dans laquelle une chose s'achève, ne peut être que le bien, ça ne peut pas être le mal, et qu'il y a une identité entre le bien et l'être, c'est-à-dire que tout être est un bien pour un bien. À cause de cela, les opposants à cette preuve sont nombreux. Ce sont les faux scientifiques et les évolutionnistes. Les faux scientifiques, parce que leurs instruments ne leur montrent que de la matière. Et ils réduisent le monde à la matière, c'est un orgueil, bien entendu. Et l'orgueil, justement, de vouloir tout expliquer eux-mêmes avec leurs instruments de mesure, et de ne pas vouloir reconnaître la supériorité de Dieu, qui est bien au-dessus de leur science. Alors ils refusent de sortir de ce que leur montrent leurs instruments de mesure, ils refusent de considérer l'esprit par conséquent, et ils ne peuvent donner aucune explication véritable du monde. C'est le hasard qui explique le monde, disent-ils, et du coup ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais le hasard n'est pas une explication, c'est une absence d'explication. Le hasard est un mot qui couvre du vide. Si c'est par hasard que le sphinx agit ainsi, cela veut dire que non seulement il n'y a pas d'explication, mais ça veut dire que le sphinx ne poursuit pas un but, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'un sphinx agisse de cette manière, et puis qu'un autre sphinx n'agisse pas différemment. Or, on constate que tous les sphinx agissent de cette manière. Il faut bien expliquer cela. Et on ne peut expliquer un ordre qui dépasse la matière, un ordre qui a été pensé, et on ne peut l'expliquer que par une pensée intelligente et bonne. Les évolutionnistes sont peut-être plus malhonnêtes, j'en sais rien, peu importe. Ils affirment un progrès universel qui remplace toute explication que donnerait le Créateur. Mais justement, cela les condamne. Parce que s'il y a un progrès, cela veut dire qu'il y a une recherche du bien. À moins que ce soit un progrès aveugle, à ce moment-là, c'est n'importe quoi. Mais si l'évolution est aveugle, elle ne va nulle part. Si l'évolution est aveugle et puis que des amas de cellules se transforment, alors à ce moment-là, pourquoi y aurait-il plutôt des chiens qui sortent des lapins, que sais-je, hein, et des poissons qui sortent des mollusques? Pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Pourquoi y aurait-il, n'y aurait-il pas une destruction? Et pourquoi y aurait-il pas, pourquoi y a-t-il nécessairement eu un progrès? Le simple fait qu'il parle de progrès montre qu'il y a un ordre vers quelque chose de bon, que la vie est une bonne chose. Et même un Darwin qui vous dit que c'est une simple question d'adaptation aux conditions de vie, que les plus forts survivent et que les plus faibles sont éliminés. Même là, Darwin montre qu'il y a une adaptation. C'est faux, hein, la théorie de Darwin. Mais si elle était vraie, eh bien, il affirmerait qu'il y a une adaptation, qui donc il y a quelque chose qui va vers le bien, face à une inadaptation qui disparaît, c'est-à-dire que le mal disparaît. Celui qui est faible disparaît. Il ne reste que celui qui est capable d'aller plus loin. Et Darwin, par là, eh bien, montrerait à l'évidence qu'il y a un ordre, que cet ordre repose sur une intelligence, puisque lui, Darwin, l'a saisi, cette intelligence du monde. Il saisit qu'il y a un progrès dans le monde. Alors s'il y a un ordre, comme ce n'est pas lui qui l'a mis, il devrait chercher qui l'a mis. La théorie de Darwin, qui n'est même pas une théorie d'ailleurs, qui est un mensonge audacieux, culotté, il proclame ça à la face du monde, mais les affirmations de Darwin ne peuvent pas tenir parce que justement Dieu respecte l'ordre qu'il a mis. Or s'il a fait des natures, je vais y venir, s'il a fait des natures, ce n'est pas pour tout chambouler à chaque fois qu'il intervient. Et s'il a fait des sphex et des grenouilles, ce n'est pas pour que un jour le sphex soit grenouille, que le lendemain la grenouille soit sphex, etc. S'il a distingué les sphex et les autres guêpes, les guêpes et les abeilles, il respecte l'ordre qu'il a mis. Et par conséquent, il respecte les natures. Parce que la nature, c'est la fin. Et ça, c'est très important, c'est un adage en philosophie. La nature, c'est la fin. C'est-à-dire que la nature poursuit une perfection. Et la perfection est une fin. Chez les animaux, la fin, c'est la survie de l'espèce, l'espèce qui dépasse chaque animal. La fin du sphex, c'est qu'il y ait toujours des sphex. Chez l'homme, la fin, évidemment, c'est la connaissance de Dieu. Et cela aussi, c'est facile à prouver. L'intelligence est faite pour connaître les choses dans leur profondeur et non pas simplement dans leur superficialité comme le font les scientifiques avec leurs instruments de mesure, qui entrent uniquement dans la superficie des choses, mais qui ne vont pas au fond des choses, c'est-à-dire à leur raison d'être. L'homme a une intelligence, il voit la raison d'être. Eh bien, tant qu'il n'est pas arrivé à la première raison d'être, il est insatisfait. Donc il arrive au Créateur. Le Créateur, c'est Dieu. L'homme est fait pour connaître Dieu, l'aimer, le louer, le servir, et par ce moyen sauver son âme. Parce que si sa nature, qui est d'honorer, louer, servir Dieu, n'atteint pas cette fin, alors il se perd, il perd son âme. Vous comprenez que cette preuve va être capitale en morale. Après l'adage, la nature, c'est la fin. Nous allons constater que tout agent agit pour une fin. Et la question à nous poser en morale sera, quelle est la fin pour laquelle j'agis? Non pas seulement la fin intérieure, c'est-à-dire celle que je cherche personnellement, mais le résultat que donne mon action. Alors, mes bien chers frères, en cette période de Noël, constatons que l'homme, dans son orgueil, a voulu mettre du désordre dans l'ordre merveilleux établi par Dieu, et que Dieu le Père envoie Jésus-Christ pour rétablir l'ordre, mais pas n'importe quel ordre, pas l'ordre d'un tyran sur des serviteurs, l'ordre merveilleux d'un roi d'amour qui reconquiert son royaume à l'amour et qui le restaure d'une façon plus admirable qu'il l'avait instauré la première fois. Et pour que nous entrions pleinement dans cet ordre, Jésus-Christ ne vient pas seulement à l'âge adulte pour nous guider, il vient dès l'âge du petit enfant pour nous servir de modèle afin que, faisant comme lui, nous arrivions, comme lui, à la gloire de son Père. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.